Bonjour et bienvenue au National de Canalem. Je m'appelle Clotilde Sey. Aujourd'hui, il me fait plaisir de vous présenter des sujets qui concernent l'ensemble des francophones vivant au Canada. On commence avec Faline Beaubier, qui, dans le cadre de l'émission Des livres pleins les oreilles, nous dit tout sur le CAEB. Ici, au Québec, les personnes qui souffrent de déficience visuelle connaissent bien le SQLA, le Service québécois du livre adapté. Mais là, voilà qu'on a vu apparaître très récemment le CAEB ou le CAEB, je ne sais pas, je vais demander à la personne que j'ai à l'autre bout du fil comment est-ce que je dois le dire. Elle s'appelle Faline, bonjour, Faline Beaubier, hein, c'est ça?
Oui.
Alors, bonjour d'abord, oui, et merci d'avoir accepté notre invitation parce que c'est vrai qu'on voudrait en savoir un petit peu plus au sujet de ce centre d'accès équitable aux bibliothèques. Qu'est-ce que c'est exactement?
Qu'est-ce que c'est? Alors, moi, je dis le CAEB, je ne sais pas si c'est correct ou non, mais en tout cas...
Écoutez, si on est pointilleux, on devrait dire le CAEB, parce qu'on parle d'un accent aigu.
Mais,
allons-y avec le CAEB.
Alors, donc, c'est un organisme national, sans but lucratif, qui a été mis sur pied en avril 2014 par les bibliothèques publiques du Canada. Et c'était vraiment dans le but d'offrir aux personnes qui sont incapables de lire les imprimés des collections accessibles et aussi de promouvoir le droit fondamental et universel d'accès à des documents dans le média de leur choix, par exemple version sonore, braille, texte électronique, etc. Pour le moment, le CAEB reçoit l'appui du Conseil des bibliothèques urbaines du Canada, des provinces qui sont participantes, aussi des bibliothèques individuelles qui sont abonnées. Au Québec, le service est offert par le biais du Service québécois du livre adapté, qui fait partie de la BAMQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
Oui, que nos usagers connaissent évidemment très bien.
Oui.
Mais juste une petite précision, ça veut dire qu'en dehors du Québec et le SQLA, dans les autres provinces canadiennes, ce type de service n'existait pas?
Oh oui, ça existait, c'était fourni surtout par INCA, que vous connaissez peut-être
oui,
aussi.
Oui, bien sûr.
Mais l'idée ou la raison pour laquelle on a établi le CAEB, c'est que depuis assez longtemps, INCA et d'autres organismes, y compris les bibliothèques publiques, ont travaillé dans le but, en pensant que le service de bibliothèque, c'est vraiment un droit fondamental.
Bien sûr.
Et que ça ne devrait pas être livré d'une façon différente pour les personnes qui sont incapables de lire les imprimés. Donc, c'était ça vraiment le but.
On parle vraiment à ce moment-là de la gratuité.
Hein, oui,
parce que c'est ça. C'est la spécificité.
C'est un service gratuit aux abonnés.
Bon, alors, quels sont les différents services offerts par le CAEB?
OK, alors, excusez-moi.
Non, je vous en prie.
J'ai trouvé mes notes.
Non, mais je vous en prie,
Alors,
est-ce que vous voulez que je vous pose une autre question en attendant?
Non,
parce
non,
que j'en ai pas mal pour vous aujourd'hui.
Non, ça va. Alors, est-ce que je pourrais peut-être parler d'abord de qui est admissible au service du CAEB?
Si vous voulez, d'accord.
Okay.
Allons-y comme ça.
OK, très bien. Alors, donc, l'accès à la collection du CAEB est réservé aux personnes qui vivent au Canada et qui ont une déficience perceptuelle. Et ça, c'est selon le langage qu'on trouve dans la loi canadienne sur le droit d'auteur.
Oui.
Donc, on parle de personnes qui sont incapables de lire les imprimés.
Oui.
Ça peut être à cause d'un trouble d'apprentissage, d'une incapacité physique, par exemple, l'incapacité de tenir
un livre,
manipuler un livre, ou d'une déficience visuelle, donc une personne qui est aveugle ou qui a une vision partielle. Okay. Donc, et une autre chose que je devrais peut-être ajouter, c'est que pour s'abonner au CAEB, c'est pas nécessaire de donner preuve
de
confiance, non. C'est tout simplement une auto-identification de la part de la personne.
D'accord.
C'est-à-dire la personne va identifier s'il s'agit d'un problème visuel, d'un handicap physique ou d'un trouble d'apprentissage.
On est donc on se base sur la confiance, là.
Oui, c'est ça, oui.
Exactement.
Ouais, ouais. Et vous aviez demandé avant quels sont les services
oui.
qui sont offerts.
Oui.
Donc, d'abord, comme on a déjà dit, tous les services oui. du CAEB sont gratuits aux
D'accord.
abonnés.
Oui.
Donc, les abonnés ont accès à la collection de formats ou médias substituts du CAEB, c'est-à-dire des livres sur CD, des magazines sur CD qui sont publiés chaque mois, notre collection de livres en braille et
oui.
notre collection, on a une petite collection de vidéos descriptives et les livres ou autres formats physiques sont envoyés directement chez l'abonné et l'abonné nous les retourne sans frais de poste à cause d'une entente avec Poste Canada.
Mm-hmm. Okay.
Et en plus d'avoir accès à la collection des formats physiques, les abonnés du CAEB ont aussi accès à la bibliothèque numérique, la bibliothèque
oui.
en ligne. Donc, ils peuvent télécharger des livres en format audio ou en braille électronique.
Formidable. Donc, ils ne passent pas, parce que moi, je pensais au départ que c'était des bibliothèques qui s'inscrivaient auprès de vous et qu'ils devaient passer par la bibliothèque. Mais donc, on
oh,
peut passer...
Non, ils doivent passer par la bibliothèque, puisque pour
okay.
inscrire, il faut qu'ils aient une carte de bibliothèque.
D'accord.
D'une bibliothèque qui est membre du CAEB.
D'accord.
Et les bibliothèques publiques ont aussi la possibilité de demander ce qu'on appelle des collections en dépôt. De livres sur CD. Donc, la bibliothèque peut avoir une collection de livres sur CD. Donc, les gens peuvent aussi visiter la bibliothèque.
Voilà. Donc, c'est pas seulement ce qu'on appelle de l'audio adapté, mais ça peut être de l'audio général, tel qu'on en retrouve.
Non, c'est toujours de l'audio.
C'est toujours de l'audio adapté?
Si les livres viennent de nous,
okay.
ça va être des livres adaptés.
Adaptés.
Qui sont disponibles seulement pour les personnes qui sont incapables de lire les imprimés.
Mmh,
mais
d'accord.
c'est bien vrai qu'il y a beaucoup de bibliothèques municipales qui ont leur propre collection de livres en format audio. En version sonore.
Mmh.
Pardon.
Bien sûr. Dites-moi, parce que ça, c'est une question que les usagers vont se poser, ceux
oui.
qui ont
mmh.
l'habitude d'entendre parler, par exemple, des livres de vues et voix, ceux que nous enregistrons
oui, oui.
ici,
mmh.
ou ceux encore qui sont enregistrés par point.
Oui.
Est-ce que ce sont des livres qui seront accessibles aux abonnés du CAEB aussi?
Oui, parce qu'on vient de signer justement une nouvelle entente avec la BANQ.
OK.
Alors, ça va être un partenariat qui vise à rendre l'accès aux livres et aux formats substituts plus facile pour les citoyens québécois et canadiens vivant avec une déficience perceptuelle. Donc, ce que ça veut dire... C'est pour le moment, c'est un projet pilote
okay.
qui va durer de 12 mois. Donc, le projet vise à offrir aux Québécois abonnés au service québécois du livre adapté un accès gratuit toujours aux collections adaptées du CAEB et en contrepartie, BANQ s'engage à offrir un accès à ces collections en français à l'ensemble des Canadiens résidant à l'extérieur du Québec.
Oui.
Par l'entremise du CAEB. Et ça veut dire que n'importe quel titre qui se trouve maintenant dans la collection de la BANQ,
oui.
Produit par Vue et Voix ou
oui.
par point, ça veut dire que chaque personne au Canada qui est inscrite au CAEB va aussi avoir accès à ces titres.
D'accord.
Donc, on est très contents parce
ben
que
oui.
justement, on voulait élargir surtout notre collection de livres en français.
Mais oui,
alors,
et nous donnons d'ailleurs, parce que vous savez qu'à cette émission-là, des livres plein les oreilles, cette émission à laquelle vous participez, il n'est justement question que de ces livres audio adaptés-là.
Oui, oui, alors oui.
on est content maintenant de savoir que ce que nous produisons peut être accessible, parce que surtout qu'il y a quand même une grande majorité de livres qui sont enregistrés en anglais. Hein?
Oui, oui. Ouais,
on parle de combien à peu près de le pourcentage?
Notre collection comporte à peu près 400 000 titres.
Oui.
Mais ça veut dire que c'est nos titres que nous, plutôt que l'INCA, produit.
Oui.
Ce sont des livres audio qu'on achète aussi d'autres producteurs.
D'accord.
Et chaque personne qui devient membre du CAEB a aussi la possibilité de s'abonner à quelque chose qui s'appelle Bookshare. Bookshare, oui. C'est une bibliothèque numérique aux États-Unis pour les personnes qui sont incapables de lire les imprimés. Et okay. ils ont une, c'est-à-dire les Canadiens qui s'adhèrent à Bookshare, ils auront accès à 300 000 titres à peu près.
Okay.
Mais le problème, ben, pour les francophones,
mais
c'est-à-dire
oui.
c'est seulement
en anglais.
Mais oui. Évidemment, il y a beaucoup de francophones qui parlent français, qui parlent anglais.
Exactement.
Et qui pourraient aussi
Exactement.
Bénéficier. Ouais.
Bon, très rapidement, parce que l'heure tourne,
okay.
Madame Bobier, on fait mm-hmm. comment pour rester informée des nouveautés du CAEB, à part d'écouter des livres pleins les oreilles?
c'est une très bonne question, parce qu'on vient de partir un bulletin électronique
oui.
Publié chaque mois. Et c'est pour les individus et les bibliothèques, et on essaie de leur donner les dernières nouvelles sur les nouveaux livres intéressants qui ont été ajoutés à la collection du CAEB, aussi sur la lecture accessible et d'autres choses encore. Donc, tout ce qu'il faut faire pour s'abonner.
Mm-hmm.
Le bulletin, ça s'appelle Livre ouvert.
Livre
Donc,
ouvert, oui.
C'est ça. Tout ce qu'il faut faire, c'est aller sur le site web du CAEB, qui
oui.
est bibliocaeb.ca.
D'accord.
Et il y a un lien sur lequel vous allez cliquer Livre ouvert pour vous abonner. Donc, c'est très simple.
D'accord. Ben, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations, parce qu'on en sait maintenant un petit peu plus. Et c'est tellement une bonne nouvelle pour les gens qui aiment la littérature en audio adaptée.
Oui, et surtout, je dirais, pour les Canadiens en dehors du Québec,
oui.
Qui voulaient vraiment avoir accès à une collection importante
Mais
de
oui.
livres en français.
Bien sûr. Alors vraiment, c'est une excellente nouvelle, et c'est la raison pour laquelle on voulait aussi vous faire une grande, grande place ici à cette émission-là. Madame Bobier, Faline Bobier, merci infiniment.
Ben, merci beaucoup.
Bonjour à toute l'équipe, parce que j'imagine que vous êtes nombreux.
Oui. Il y a plus que moi, heureusement.
J'imagine. Et au plaisir de vous réentendre et de vous reparler rapidement.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Tous les livres présentés à Des livres pleins les oreilles sont disponibles en format audio adapté au Québec via le SQLA, le Service québécois du livre adapté ABANQ, ailleurs au Canada via le Centre d'accès équitable aux bibliothèques, le CAEB. Le régime enregistré d'épargne-invalidité, le REEI, permet aux personnes handicapées de 49 ans ou moins de recevoir jusqu'à 70 000 $ en subvention. Apprenez-en plus avec Benoît Racette d'Accès Libre et Fanny Allary de Finhandicap.
Avec nous, Fanny Allary, directrice générale de Finhandicap, une figure de proue au Québec pour promouvoir le REEI. Je commence avant de vous laisser expliquer vous-même ce que c'est. Vous avez peut-être entendu ces lettres-là, le REEI. Enfin, si vous ne l'avez pas entendu, c'est peut-être normal, puisqu'on dit souvent qu'au Québec, on utilise peu ce moyen financier à l'attention des personnes en situation de handicap. Et donc, c'est pour ça qu'on invite Mme Allary pour en discuter. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Ça me fait plaisir.
Vous aussi, d'ailleurs, vous avez accepté à la toute dernière minute. On a refait un peu l'horaire. Merci d'être avec nous, parce que c'est toujours important, le REEI.
Oui, c'est sûr.
Bon, alors, je disais plutôt que les gens connaissaient peu ça. Comment vous expliquez qu'au Québec, par rapport aux autres provinces du Canada, on utilise peu le REEI, qui est un régime d'épargne, là?
Il n'y a pas nécessairement une explication unique, là. C'est peut-être un ensemble de facteurs. Ça n'a pas été beaucoup publicisé, peut-être ici. Peut-être aussi parce que c'est un régime, faut le dire, des fois fédéral. Des fois,
okay.
on est peut-être plus...
réticent, non, dites-le.
J'aime pas le mot réticent. Disons frileux, ou tu sais, il y a une espèce de confiance là, qui est peut-être pas là envers les différents paliers gouvernementaux.
Ben, à certaines époques, oui.
Oui, ça, exactement. Puis là, ça date de 2008. Ça a tardé aussi au départ. Il y a eu une question de traduction là, de l'anglais au français et tout. Mm-hmm. Aussi au niveau des publicités, au niveau comme nous, quand on a débuté avec, c'est Guillaume Parent, le fondateur du cabinet, quand il a débuté en 2010, ça faisait déjà 2 ans que ça existait. Mais déjà, on voyait que dans le domaine, dans le milieu francophone, c'était peu utilisé parce que peut-être qu'il y avait une barrière de la langue aussi. L'information avait été moins circulée ou moins traduite en français. Il y a peut-être une de ces explications-là. Mais je pense que ça n'a juste pas été véhiculé. Le message n'a pas été véhiculé. Okay. Dans l'Ouest canadien, par exemple, il y a eu des organismes comme Plan qui ont vraiment pris en main le dossier. Puis c'est eux qui, à l'origine, l'avaient poussé pour le développer. Donc, eux, ils l'ont publicé beaucoup. Donc, c'est des organismes pas gouvernemental, vraiment des OBNL qui l'ont pris puis qui l'ont publicisé, chose qui n'a pas été faite ici.
OK. Donc, on a peut-être peur des droits économiques aussi des personnes en situation de handicap,
oui,
parce qu'il n'y a pas juste les droits sociaux, là.
Exactement, exactement. Puis de façon générale, les Québécois sont des gens qui sont moins axés sur l'épargne. Souvent, on entend ça même au niveau des REER, au niveau du CELI, fait que c'est peut-être juste culturel aussi, là.
Okay.
Mais il faut en parler. Moi, je pense que le message n'a pas été assez non plus distribué, dit là.
OK. Bien, on est là pour ça. Donc, le REEI, dites-nous en quelques mots, qu'est-ce que c'est?
Bien, l'appellation, c'est Régime enregistré d'épargne invalidité. C'est un régime, c'est ça, fédéral, qui a été mis sur pied pour favoriser l'épargne à long terme des personnes qui ont droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées.
Mm-hmm.
Donc, c'est tout handicap confondu. Dès qu'on a accès au crédit d'impôt, on est admissible au régime.
Okay.
Puis, comme je disais, il faut le voir comme un régime qui est sur du long terme parce que c'est de l'accumulation qui se fait sur long. Donc, dépendamment de l'âge à laquelle on commence à cotiser à notre EI, peut-être que l'utilisation ne sera pas la même si je commence à un an de l'enfant handicapé versus à un adulte de 30 ans qui va commencer. Donc, c'est de voir, chaque situation est unique dans le fond, mais faut viser plus du long terme que du court terme.
Bien, souvent, l'épargne, c'est ça, c'est peut-être...
Exact.
Il faut penser un peu à long terme. Puis c'est important parce que, qu'on le veuille ou non, les services publics ont tendance à diminuer un peu pour les personnes handicapées, puis on souhaite peut-être avoir une retraite comme les autres.
Oui, puis il faut pas se le cacher aussi. Malheureusement, le revenu moyen d'une personne handicapée, même si elle est sur le marché du travail, est malheureusement plus bas.
Mais justement, et les gens ne le savent pas, mais il existe une subvention en plus.
Exactement. Donc, il faut le voir comme pour un travailleur, par exemple, mais même pour une personne sur la solidarité sociale, là, il n'y a pas de... contrairement à ce qu'on pense aussi, ça n'est un autre facteur qui a fait peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup d'ouverts, c'est qu'il y en a beaucoup qui pensent que s'ils sont sur la solidarité sociale ou l'aide sociale, ils ne peuvent pas y avoir accès, mais c'est faux.
Okay.
Ils peuvent y avoir accès. Puis les sommes accumulées ne sont pas comptées dans le revenu, donc ça n'entraîne pas de coupure de l'aide sociale. Donc ça, c'est important de le dire. Puis, dans le fond, le gouvernement finance votre retraite, entre guillemets. Donc, chaque dollar que vous mettez, le gouvernement va en mettre jusqu'à 3 fois ce que vous allez mettre. Ça va dépendre de différents paramètres.
Mm-hmm.
Puis, dans le fond, c'est ça. Ça vient un peu pallier au fait que la personne handicapée a un revenu peut-être plus bas. Bien, à ce moment-là, on va peut-être avoir accès à une retraite quand même intéressante parce que le gouvernement va venir combler un déficit. Là.
Et donc, il faut faire ça tôt. C'est ce que vous recommandez.
Ça, c'est comme l'épargne en général. Plus on commence tôt, mieux que c'est, parce qu'il y a l'effet d'intérêt composé qui vient entrer en jeu. Donc, dès qu'on commence à faire des montants tôt, puis qu'on cotise longtemps, mais ces montants-là vont faire de l'intérêt sur intérêt. Donc, c'est le même principe pour un REER. Plus on commence tôt à planifier notre retraite, plus on va avoir des sommes importantes plus tard.
OK. Puis donc, par contre, brièvement, là, on ne peut pas liquider le REER aussi facilement avec les subventions. On les perd, les subventions sont liquides, le REEI.
Il y a des règles d'application, effectivement, pour les retraits.
Mm-hmm.
Effectivement, la dernière subvention versée au compte doit être là 10 ans avant de retirer sans pénalité.
OK.
Et ça, c'est une grande règle générale. Des fois, on peut la moduler. Il y a aussi des pénalités qui sont réduites, dépendamment des sommes qui veulent être retirées.
Mm-hmm.
Il y a aussi des... Il y a eu des modifications.
On ne pourra pas entrer dans les détails de la modification. L'important...
En fait, je veux pas que les gens restent avec le 10 ans dans la tête parce quelqu'un qui peut bien vous conseiller, vous pouvez le moduler.
Exactement. Et pour avoir de l'information, on va sur... quel site Internet, Fanny?
Bien, notre site à nous, Finhandicap, FINANDICAP, beaucoup d'informations. Sinon, sur le site de Emploi et développement social du Canada, qui sont les responsables de gérer le dossier.
Merci beaucoup, Fanny Allary de Finhandicap. Merci d'avoir été avec nous.
Ça me fait plaisir.
Sans plus tarder, retrouvons Marianne Paquette à l'émission Portrait de famille. Nathalie Richard, bonjour.
Salut.
Merci d'être là.
De plaisir.
On est sur appel aujourd'hui, on va le dire. Pourquoi donc?
Bien, parce que je suis la seule et unique responsable de Fiston. Donc, là, il est à l'école présentement. David est diabétique, fait que ça arrive souvent qu'on appelle sur l'heure du dîner pour apporter des petits incidents.
Oui.
Voilà.
Donc, on sera à l'affût. Et si à un moment donné, j'ai envie de te tutoyer. Si à un moment donné, tu sors, vous sortez, Nathalie Richard, eh bien, on saura pourquoi.
Pas de problème.
Pourquoi j'ai envie de te tutoyer? Bien, parce qu'on se connaît quand même un petit peu.
Oui.
Mais je n'avais jamais vu David, qui est sur cette photo, cette inspiration de l'étoile de Pachot, parce qu'on demande aux parents, Nathalie, d'amener leur portrait de famille, leur photo de famille. Elle est déjà sur nos réseaux sociaux, cette photo, et on peut vous voir avec un magnifique sourire. Et ça revient un petit peu avec ce que je disais tout à l'heure, la fierté. Une maman fière, une fière maman, mais ça va, ça, avec toutes sortes de péripéties et d'obstacles, parce que David, je le disais tout à l'heure, il est venu avec plein de diagnostics.
Oui, tout à fait.
Et sa naissance, les premières années, ça n'a pas été trop facile.
Non, l'histoire de David, en fait, comme tous les enfants handicapés, gravement malades, est quand même particulière. Je pense que ce qui est particulier dans le cas de David, c'est qu'il a une santé fragile. Il y a beaucoup de problèmes médicaux. Qui demande là, des soins d'une infirmière. Donc, ça vient rajouter au handicap physique. Donc, David, paralysie cérébrale, il a fait un ACV dans mon ventre à la fin de la grossesse. On savait déjà qu'il allait avoir quelque chose à la naissance. Donc, paralysie cérébrale est tombée très tôt. Ensuite de ça, l'épilepsie embarquée, les troubles de digestion, gastrostomie, scoliose, subluxation de la hanche. Ça a été une chose après l'autre. La déficience intellectuelle a été diagnostiquée éventuellement. Puis, tout dernièrement, en avril dernier, David est rentré à l'hôpital en ambulance d'urgence, coma diabétique. Donc, diabétique de type 1, aucune idée pourquoi, c'est un mystère de la vie, encore une fois.
Ouais.
Donc, le quotidien avec David est un gros challenge. Ouais.
Et les premières années ont été marquées, et vous l'avez nommé de cette façon-là, une période de survie.
Ben oui, tout à fait. En fait, je pense que n'importe quel parent... qu'il y a un enfant handicapé, peu importe le niveau de l'handicap, les premières années, on est en mode survie. Un, il faut premièrement faire notre deuil là-dedans. Ouais. Donc, quand tu es en deuil, en général, tu vis pas très bien. Tu es dans une espèce de bulle de tristesse, de peine et toutes les émotions qui viennent avec le deuil. Donc, tu n'es pas vraiment en vie, tu es en survie vraiment. Puis, le problème avec un enfant handicapé et gravement malade, dans le cas de mon fils, c'est que les deuils ne finissent jamais d'arriver. T'as tout le temps une nouvelle, une après l'autre. Ils découvrent pas toutes en même temps. T'sais, c'est au cours des premières années. Donc, les 5 premières années, en général, avec un enfant qui a un diagnostic important, sont une période de survie.
Parce que lorsqu'un premier deuil est fait, il y a un nouveau diagnostic qui arrive.
En général, oui. C'est malheureusement comme ça que ça se passe. La beauté de la chose, c'est ce que j'essaie de transmettre aux parents que je rencontre, c'est qu'à un moment donné, ça se stabilise tout ça, Dieu merci. Donc, vers l'âge scolaire, et c'est pas vrai pour tous les enfants, bien sûr, mais pour la grande majorité, vers l'âge scolaire, on dirait que les enfants, on a fini de découvrir les diagnostics. Donc là, on sait un peu à quoi s'attendre, on sait qu'est-ce que l'enfant peut faire, ne peut pas faire, ses maladies, ses soins médicaux à porter. Et l'enfant devient plus stable aussi médicalement, donc il est moins malade. Ou quand il est malade, c'est pas une hospitalisation à chaque fois. Donc, on semble retrouver un semblant de vie plus normal un peu.
Oui. Je vois votre collier...
Ah, mon
Nathalie,
Dieu, oui.
Un D.
Ouais.
Ça revient encore à ce grand sourire sur cette photo. Et cette fierté, ça vous amène, ou qu'est-ce que ça vous a amené, la naissance de cet enfant?
Je ne m'attendais pas à ça. Je pense qu'aucun parent s'attend à l'amour qui va venir avec cet enfant-là, peu importe qu'il soit handicapé ou pas. Ça m'a vraiment pris par surprise. David m'a vraiment transformée à être une personne meilleure. Je pense que je n'étais pas si pire avant, là, mais c'était un grand apprentissage de vie. Quand on a un enfant comme ça, on n'est plus la priorité. Ça s'appelle pas mal du don de soi. Donc,
vous parlez de lionne?
Oui, ici. Effectivement, on devient... devient une lionne pour son enfant quand, justement, les parents ne s'entendent pas pour certains soins, certaines opérations, puis qu'il faut trancher. Je pense que les mamans, on a ça beaucoup en nous, certains papas aussi, là, mais de protéger notre enfant coûte que coûte, puis de prendre les décisions qu'il faut pour sa survie à lui.
Ouais.
Donc, ça m'a vraiment transformée.
Ça a été le cas pour vous, Nathalie Richard, parce que le papa de David n'est plus dans le portrait. Assez rapidement, ça a été assez chaoteux avec lui, et il y a eu des mésententes par rapport aux soins apportés à David, même au risque de sa santé.
Oui.
Comment on peut évoluer à travers une genre de relation de couple comme ça, mais aussi une relation médicale, parce qu'on est en relation aussi avec des médecins.
Mm-hmm, absolument. En fait, c'est assez complexe, je vous dirais. C'est sûr que quand les parents ne s'entendent pas pour un choix médical important comme une chirurgie, c'est l'hôpital qui tranche. Quand l'hôpital... en fait, c'est pas vrai. L'hôpital ne tranche pas. L'hôpital va donner son point de vue.
Oui.
Mais c'est la cour qui va trancher si les parents n'arrivent pas à prendre une décision, la même décision, finalement. Donc, l'hôpital va vraiment se pencher sur le cas, l'avocat, finalement, qui va représenter l'enfant à la cour, va vraiment se pencher sur le cas et décider pour le bien-être de l'enfant et non de celui des parents. Donc, je peux vous assurer que ce n'est pas une situation plaisante à vivre. Ça nous met dans une situation, en tout cas moi, personnellement, ça m'a mis dans une situation très, très stressante. Je voyais David, c'est arrivé à deux reprises en fait, mais je voyais David dépérir. Puis la chirurgie en question était une question de vie ou de mort, là. Donc, on attend après ça, puis
ça
occasionne un grand stress. Oui, oui.
Que ça, tout se déroule comme il faut et d'agir à temps.
Oui.
Vous avez parlé, Nathalie, de priorité. Mm-hmm. À un moment donné, on n'est plus la priorité, bien sûr. Et ça, c'est pour bien des parents. Mais il y a un danger à ça. C'est l'épuisement.
Absolument.
C'est l'isolement.
Absolument.
Et vous êtes passé par là.
Mm-hmm.
Comment, à un moment donné, on se dit, OK, mon enfant est la priorité, mais si moi, je ne m'accorde pas cette importance, je n'aurai plus la santé pour m'occuper de lui?
Je ne sais même pas quoi vous répondre parce que je ne sais pas, en fait, quand est-ce que ça m'est venu. Je sais que ça m'est apparu à m'emmener. Je pense, David, peut-être avait 4 ans environ, que j'avais plus l'option de ne plus prendre soin de moi puis de me reposer parce que sinon, je serais plus là pour m'occuper de lui. Puis si je suis pas là, il n'y a plus personne pour s'occuper de lui. Donc, il est arrivé quelque chose, je pense que c'est un peu avant sa chirurgie au cerveau quand il a eu 6 ans, qui a fait que oui, j'ai commencé à prendre soin de moi, aller au gym, aller prendre plus de temps pour moi. J'ai arrêté de travailler aussi. C'est extrêmement difficile pour un parent d'un enfant comme ça, qui est responsable de toutes ses décisions, qui est finalement le maître de la vie de cet enfant-là, de prendre la décision de « Hey, il faut que je me priorise, moi aussi, il faut que je prenne soin de moi. » Ça demande beaucoup d'efforts, en fait.
Ouais. Sans un conjoint qui est là, voilà. Donc le lot d'une maman monoparentale qui vit avec un enfant qui est lourdement handicapé. Courte pause et on parlera avec une autre mère qui vit cette situation, mais qui est également directrice générale de Mères avec pouvoir, un organisme qui vient en aide aux mamans monoparentales.
Pour commencer cette seconde partie du National sur Canal M, je vous propose de retrouver tout de suite Marianne Paquette et ses invités dans le cadre de Portrait de famille. Elle est avec Valérie Larouche de Mères avec pouvoir pour soutenir les mamans monoparentales d'un enfant lourdement handicapé.
Valérie Larouche, bonjour.
Bonjour.
Vous savez, Portrait de famille, c'est un peu aussi une espèce de banque de rencontres, là, parce que Nathalie avait envie de rencontrer Valérie depuis un petit bout, et c'est là que ça se passe, dans ce studio au Canal M. Valérie, bonjour. Merci d'être là, directrice générale de Mères avec pouvoir. Mmh. Est-ce que c'est ce parcours avec Camille, parce que Camille a 12 ans et demi, elle vit également avec de multiples handicaps, qui donne envie de s'investir pour d'autres mères qui vivent la même situation?
Bien, c'est sûr que mon parcours, parce que j'ai élevé ma fille toute seule pendant 8 ans, puis j'ai eu un conjoint quand Camille avait 8 ans et quelques, avec qui j'habite maintenant. Donc, le parcours de mère seule, je le connaissais. J'étais en mesure, je pense, de bien pouvoir les représenter puis comprendre leur réalité. Que ma fille ait des limitations ou non, ça changeait rien à ce moment-là. Ce qui était surtout important de savoir, c'est que moi aussi, j'avais vécu la solitude avec ma fille ou le fait de devoir l'élever seule. Puis que pour moi, Camille a beaucoup, beaucoup, beaucoup de besoins, mais elle a énormément de force aussi. Puis c'est là-dessus qu'on se concentre beaucoup. Puis pour moi, c'était qu'un bébé, c'est un bébé. Je dis, dans les premières années de vie, c'est l'enfer. Mais je pense que pour tout parent, c'est l'enfer. C'est tellement nouveau. Puis t'as aucun repère. Fait que cette expérience-là, moi aussi, je l'avais comme elle. C'est sûr qu'il y a toujours un plus-plus. Des fois, c'est sûr que Camille, ça prend un petit plus de patience. Puis je suis quand même capable de le dire aussi, peut-être un petit peu plus d'amour aussi. Parce que ça, c'est extrême, c'est transversal, c'est dans toutes les sphères de vie. Là. Fait que c'est sûr que ça m'a amené là. Donc, ça me nourrit incroyablement au quotidien de côtoyer des femmes qui élèvent leur enfant seul, puis qui se mobilisent, parce qu'à MAP, c'est des mamans qui retournent aux études ou sur le marché du travail. Là. Donc,
il faut le dire, je pense, MAP, ce n'est pas seulement pour des mamans qui ont des enfants avec un handicap, c'est pour toutes les mamans monoparentales. On crée un réseau autour de ces femmes-là. Elles ont besoin de ça.
Exactement. Puis ça arrive qu'il y en a qui ont des enfants qui ont des limitations fonctionnelles. C'est dans le lot, mais ce n'est pas un critère parce que chez nous, c'est des mères monoparentales. Donc, il y a à peu près 33% des familles qui sont femmes chefs de famille monoparentales. Considérant le nombre grandissant en plus d'enfants qui ont des limitations, c'est sûr que ça va arriver qu'il va en avoir. C'est vraiment comme une micro-société. Ça représente à peu près la ville en général. Là.
Et qu'est-ce que Mère avec pouvoir met autour de ces femmes-là?
C'est un parcours temporaire. Donc, ils vont vivre chez nous 3 à 5 ans. Pour nous, c'est toutes les conditions favorables pour réussir un projet de vie. Donc, ils vivent en communauté. C'est 30 femmes avec leurs enfants. Ils ont chacune leur logement, leur espace. On offre un CPE. Puis il faut que je le nomme, c'est le CPE Carrefour. C'est probablement le meilleur CPE du monde entier. Ma fille était allée là et il avait été très inclusif. Et moi, il m'inspirait aussi beaucoup dans la façon d'être avec ma fille. Puis des intervenantes. Donc, des intervenantes sur place qui les accompagnent dans leur projet. Bon, ils travaillent les 4 sphères de vie, dont le volet mère, qui est super important. Si ça va pas bien comme maman, c'est sûr que travailler... C'est difficile. Ta vie sociale, c'est difficile. Être un citoyen, c'est difficile. Mais ça, là, ça continue tout le temps. C'est sûr. Puis quand ton enfant a des besoins particuliers, tu sais, des fois, le citoyen, là, il est loin là, dans tes priorités, tu sais. Sauf que il y a des choses qu'il faut faire puis qui restent extrêmement importantes. Qui sont pas des priorités aujourd'hui, mais d'avoir quelqu'un qui est là pour te ramener, tu sais, sur ces... Garder ton réseau social, c'est important.
Ouais. Faire des rencontres, à toi rencontrer un amoureux, tu sais, rencontrer un homme, ça peut être aussi important dans la vie, le parcours d'une femme.
Ça reste aussi important, mais c'est un petit peu plus difficile. Le défi est grand. Le défi est grand quand tu es une mère seule avec ton enfant, premièrement, puis quand il y a des besoins particuliers, là, ça, tu rajoutes rajoute une couche. Oui.
Ce qu'il y a de précieux aussi chez MAP, c'est, et on en parlait aussi avec Nathalie, c'est de tisser un réseau et de briser l'isolement qui fait mal et qui entraîne une grande souffrance.
Mais tu sais, j'imagine, là, je connais pas toute l'histoire de Pacho, mais il y a toute la connaissance des ressources. Quand tu as un enfant, anyway, il y a plein de ressources puis que tu dois apprendre à connaître. Puis si tu veux refaire ta vie, peut-être le répit, c'est important. Ouais. C'est dur, laisser son enfant. Là. Toutes les mères ont de la misère. Puis quand il y a des besoins particuliers, tu sais, encore plus. Puis, bon, il y a Mme Théroux, là, qui va parler tout à l'heure. Camille, elle va au camp papillon. Mm-hmm. Elle adore ça. Puis on est des grands fans. Les loisirs sont super importants. Trouver une place où est-ce que ton enfant va être accueilli, comme tous les enfants.
Et où il va être en sécurité, absolument. Même s'il y a une déficience intellectuelle, même s'il y a un diabète.
Mais où est-ce qu'il va être en sécurité? Mais comme tous les enfants, lui, autant que les autres. Mais c'est sûr que ça demande à l'organisation de mettre des choses en place plus particulièrement, mais que ton enfant soit comme moi. Quand ma fille, on va à l'association sportive, j'ai nommé aussi parce que j'ai trouvé extraordinaire. Quand on est rentré là la première fois, Camille était comme une petite fille comme les autres. Il n'y a rien de plus compliqué, là. Puis tout est adapté pour elle, mais j'ai pas besoin de le demander. C'est comme ça va de soi, c'est évident.
Est-ce que la petite fille, comme les autres, amène à être une maman comme les autres?
Ben, tu sais, je suis pas... Tu sais, une maman... Moi, mon opinion, là, puis tu sais, je suis comme... C'est plus chronique, là, c'est rien de statistique. Moi, je dis qu'une maman, ça se trompe pas.
Mm-hmm.
Tu sais? Parce qu'ils font... Une maman, ils font... Les mamans, ils font ce qu'ils peuvent. Quand tu fais ce que tu peux pas faire plus que ce que tu peux. Des fois, c'est vrai que c'est pas assez. Des fois, c'est vrai que c'est pas la bonne affaire. Mais c'est le plus que je peux. Ça, c'est le maximum, mm-hmm. tu sais. On parlait de prendre soin de soi.
Mm-hmm.
Ça, il faut que ça sorte à un moment donné. Puis moi, c'était de la colère, hein, tu sais. Fait que je suis partie à la course. Je me souviens une fois, sinon j'allais débarquer à l'hôpital puis faire une crise de nerfs. À la place, j'ai mis mes espadrilles puis je suis partie à la course. Puis c'est sûr que ça, là, ça a de l'impact sur la santé de ma fille,
mm-hmm. sur son comportement. De soi. Hein? Tellement.
Tellement. Mm-hmm. C'est une éponge. Des fois, je dis, ah, étonnante, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qui se passe? Une petite introspection, là, s'il vous plaît. Je le dis aux mamans avec qui je travaille aussi. C'est un peu, c'est comme ça pour toutes les familles, tu sais, de donner aussi toute l'intelligence des enfants, de faire confiance à ça.
Mm-hmm.
On parlait de statistiques, et c'est toujours un peu plante là, de parler en termes de chiffres. Est-ce qu'il y a des statistiques et une façon d'expliquer pourquoi, souvent, ce sont les mamans qui se retrouvent seules, chefs d'une famille, et souvent, lorsqu'il y a un enfant à besoin particulier?
Bon. Là, j'ai essayé de faire mes devoirs, là, puis de prendre plein de statistiques, puis de regarder ça, puis... La première chose qu'on constate, c'est que toutes les statistiques sont contradictoires. Bon,
okay.
Fait que si on regarde quelque chose, il y en a qui vont dire, par exemple, à la CIS, elle me disait, bien, il y a des statistiques qui disent qu'il y a certains diagnostics qui vont rapprocher les couples. Puis là, tu regardes nos statistiques, puis elle a dit non, c'est le contraire.
Bon, oui, j'entends ça aussi. Ouais.
Finalement, ce que moi, j'observe dans étant dans le milieu, c'est que c'est vrai que c'est il y a beaucoup de familles qui se séparent. Les mères, on la garde à plus de 50 % du temps, ce qu'on va dire monoparental.
Mm-hmm.
Puis ça, là, admettons, ça, c'est la donnée, tu sais, en général. C'est sûr qu'il n'y a pas de raison que ce soit différent pour les enfants qui ont des diagnostics particuliers. Donc, les femmes vont être souvent plus dédiées plus à la famille, vont avoir tout ce qui est le portrait de la petite enfance. Pas vrai, là, que c'est pas jamais les pères, mais c'est souvent les mamans.
On est dans une société très matriarcale au Québec.
Oui.
Puis l'homme a un peu... Je pense que l'homme ne sait plus où est sa place. Il y a des papas, je pense, qui sont très impliqués dans la vie de leur enfant, mais c'est pas la majorité. La maman prend la place.
Puis on s'entend là, que c'est intimidant, là, tout ce qui est la médecine. Là. Moi, je me souviens de me faire regarder là, quelle cuillère dans le pot de cuillère j'allais choisir pour alimenter ma fille devant là, des ergots, des physios, les médecins. Là, t'es comme, OK, il faut que je choisisse la bonne cuillère. Puis voyons, je nourris ma fille 3, 4, 5 fois par jour. Là. Ouais.
Mais faire seul aussi, sans miroir, sans personne pour valider ces choix-là ou sans personne pour se réfugier parfois, ça peut être encore...
Il n'y a pas de bonne... Tu sais, je me dis, l'idéal, c'est d'être deux. On s'entend, là. Mm-hmm. C'est sûr que l'idéal, c'est d'être deux. Mais moi, par exemple, j'ai jamais eu à négocier.
Ouais.
C'est moi qui ai pris toutes les décisions. Quand je voulais, ce que je voulais, j'ai jamais eu à négocier. Mais je me suis sentie vraiment seule. Mais tu sais, il y a tout le pendant. Tu sais, ça dépend de quelle équipe de couple tu étais avant d'être l'équipe parent, là. C'est sûr que ça va avoir de l'impact.
Oui. Elle arrive quand même à trouver les bons côtés. Valérie Larouche, directrice générale de Mères avec pouvoir, mapmontréal.org. 30 mamans, mais j'imagine une grande liste d'attentes en terminant, Valérie.
Toujours un an et demi d'attente, des fois 2 ans. Pour pouvoir profiter de nos services, c'est énorme. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de logements sociaux à Montréal. Il n'y a pas beaucoup de développement à ce niveau-là. Donc, mais on essaie de développer des programmes pour pouvoir répondre au plus de familles possible, sinon de référer, de bien connaître les ressources. Encore une fois, c'est un peu la même histoire, là.
Merci beaucoup. Salutations à Camille.
Oui.
À bientôt, j'espère, Valérie.
Oui.
Pour plus d'informations, visitez le site Mère avec pouvoir.
Les employés aveugles sont aussi compétents que ceux qui voient. C'est le thème de la campagne Employabilité de l'Institut national canadien des aveugles, l'INCA, qui se tient dans le cadre du mois national de la sensibilisation à l'emploi des personnes handicapées. Pour aller au-delà des préjugés, employés et employeurs se sont réunis en studio pour répondre aux questions de Benoît Racette.
Donc, vous le savez peut-être, les personnes qui ont une déficience visuelle, et même s'ils ont un niveau de scolarité comparable à celui de la population générale, sont proportionnellement beaucoup moins nombreux, nombreuses à occuper un emploi. Donc, c'est pour ça que l'INCA, un organisme caritatif incontournable pour l'aide des personnes aveugles, vient nous parler de sa campagne nationale sur l'employabilité des personnes vivant avec une perte de vision. Alors, il y a beaucoup de monde en studio. Je saluerai d'abord Sarah Rouleau, qui est consultante en communication et philanthropie à l'INCA.
Bonjour.
Bonjour, Sarah Rouleau. James Bergeron, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous avez témoigné dans cette campagne-là. Vous êtes ingénieur à la retraite. Vous avez travaillé pendant 16 ans chez Air Canada.
C'est ça.
Et devant moi, je vous le dis, là, vous le savez peut-être pas, mais il y a Marilyn Gélina. Vous avez peut-être croisé son histoire. Madame Gélina est infirmière et elle a perdu son emploi après un diagnostic de perte de vision. Bonjour, Marilyn.
Bonjour.
Merci de participer à cette campagne à vous tous. On la trouve belle, hein, si on l'a croisée. Il y a toutes sortes de messages. Je commencerai d'abord avec vous, Madame Sarah Rouleau de l'INCA. Pourquoi l'INCA a choisi de lancer cette campagne à ce moment-ci?
Pourquoi en ce moment? Parce que c'est le mois national de la sensibilisation à l'emploi des personnes handicapées. Donc, on a profité de l'occasion pour lancer notre campagne au mois d'octobre. Mm-hmm. Pourquoi une campagne sur l'employabilité? Pourquoi on trouvait ça important? Comme vous l'avez dit, il y a un fort taux de non-emploi chez les personnes qui ont une déficience visuelle. Donc, c'est seulement 38 % des personnes qui vivent avec une perte de vision et qui sont aptes à travailler, qui travaillent, donc c'est très peu. Et pourtant, de nos jours, avec les technologies, la réadaptation
le
et tout...
Le travail.
Il y a vraiment... travailler avec une personne qui a une déficience visuelle, c'est comme travailler avec n'importe qui. Donc, il n'y a pas de raison que ce taux-là soit aussi faible. Et malheureusement, il y a près de 50 % des personnes qui vivent avec une perte de vision qui vivent avec un faible revenu, donc avec 20 000 $ et moins par année. Donc, c'est important pour nous de parler de l'employabilité des personnes qui vivent avec une perte de vision.
Oui, puis j'ajouterais, vous avez aussi demandé une enquête chez Ipsos et on apprend qu'à compétence égale, 70 % des Canadiens embaucheraient une personne voyante plutôt qu'une personne aveugle.
Oui, mais c'est ça. En fait, le principal obstacle au non-emploi des personnes qui vivent avec une perte de vision, ce sont les préjugés puis les mythes qui continuent d'exister, malheureusement. Et effectivement, cette statistique-là est très surprenante, mais elle est due en grande partie à la méconnaissance des employeurs ou même des collègues de travail.
Donc, vous êtes là pour mieux nous faire comprendre cette réalité,
oui,
démystifier, faire tomber les mythes.
Exact.
Bon, écoutez, j'ai au téléphone un employeur qui a compris qu'une personne aveugle, ça faisait toute la différence. Et je veux la présenter parce que je ne l'ai pas encore fait, si vous permettez. Il s'agit de Natalia Di Battista, qui est l'ancienne employée de James, qui est avec nous en studio et qui est chef de service ingénierie cabine chez Air Canada. Bonjour, Madame Di Battista.
Bonjour.
Baptista, pardon, je suis désolé.
Pas de problème.
Merci de votre compréhension. Écoutez, j'aimerais ça qu'on parle tout de suite de votre expérience avec James, puisque, on a tendance à donner la parole aux gens qui sont moins présents parce qu'on ne veut pas vous perdre, on veut que vous soyez avec nous et c'est si heureux qu'il y ait un employeur comme vous qui soit compréhensif. Donc, vous avez travaillé avec James pendant combien de temps?
Je dirais environ 6 ans.
Mm-hmm.
Mais je l'ai côtoyé beaucoup dans ses autres emplois aussi.
OK.
James m'a ouvert les yeux à moi, je pourrais dire. Je dis toujours que les gens qui sont non-voyants, ils n'en ont pas de limites. C'est nous qui leur imposons des limites, malheureusement.
Mais on entend... Donc, c'est un employeur qui dit ça, là. Comment vous réagissez aux 70 % de personnes qui préféraient ne pas embaucher des personnes aveugles?
Mais je pense qu'il y a de l'incompréhension. Mm-hmm. Ces gens-là qui travaillent savent qu'est-ce qu'ils ont besoin pour travailler. Et souvent, c'est un téléphone ou un appareil portatif avec voix, un laptop.
Ouais. Ou avec une synthèse vocale?
Exactement, et c'est tout. Il n'y a aucune grosse adaptation. C'est de les mettre à l'aise. Ils sont capables de dire ce qu'ils ont besoin pour travailler. C'est des gens comme vous et moi tous les jours.
Oui. Bien, écoutez, je vais vous prendre au mot. Il faut entendre les personnes d'abord et avant tout, leur parler. Et donc, je me retourne vers James Bergeron. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre votre ancienne employeuse qui était assez compréhensive?
Oui, c'est ça. L'idée, c'est de partager toutes les informations avec eux autres,
oui.
de être capable de communiquer les besoins. Les besoins, je ne suis pas une personne spéciale, mais j'ai une personne avec les besoins spéciaux, c'est ça.
Okay.
Et de partager ça, s'il y a des barrières, s'il y a des choses qui arrivent, parce que la technologie change tout le temps. Mm-hmm. Et puis, il faut avoir l'adaptation qui change avec la technologie. Je travaillais avec la compagnie pour comprendre ça, attendre ça, puis aussi avec les autres genres d'entreprises comme OPHQ ou peut-être comme... L'INCA ouais. ou des
Mais pour les gens qui nous écoutent, ça fait beaucoup. Je veux juste préciser, l'OPHQ, c'est l'Office des personnes handicapées du Québec, qui est l'organisme qui surveille les droits des personnes handicapées dans l'appareil d'État. Et INCA, c'est l'initiateur de cette campagne-là.
Oui,
donc,
exactement.
Sachez-le. James Bergeron, peut-être pour que les gens comprennent bien comment ça s'est passé, votre relation de travail, pouvez-vous nous décrire votre travail lorsque vous étiez chez Air Canada avec, avec Natalia qui est avec nous?
OK. Pour moi, je travaillais dans le domaine de gérant de projet. Puis on faisait beaucoup des projets différents pour les avions. Mm-hmm. À l'intérieur, surtout dans la cabine, ce que vous voyez comme client, comme acheteur de billets, les tapis, les sièges, les écrans, tous les genres, les toilettes, tout ça, pour être... le plus haut que possible pour nos clients. Okay. Alors, il y a toujours des projets qui changent tout ça. Ça s'arrête jamais.
Ah, le changement, c'est toujours c'est là.
Il y a toujours des travaux sur ça. Ça, c'est genre... Demande à Natalia, parce qu'on travaille ensemble.
Ben oui, Natalia, comment vous décririez ça?
Bien, nous, on s'occupe de la fiabilité de la cabine, donc tout ce qui est sous le plafond, au-dessus du plancher, puis entre les murs, on est responsable que ça fonctionne bien, que ça paraisse bien et pour le confort du client. Puis on a beaucoup de projets, des projets de réparation, des projets pour améliorer la cabine, et James était vraiment le chef de service en charge de projets, donc pour faire le suivi avec nos fournisseurs, que les pièces arrivent à temps, suivre l'horaire des avions pour s'assurer qu'il y a bien un avion par terre pour qu'on puisse faire une modification, s'assurer qu'il y a les bons mécaniciens à la bonne place. Donc
c'est un pro de la logistique. C'est un pro de la logistique, mais justement avec ces adaptations que vous proposiez dans le milieu du travail, vous arriviez, James, à contrôler tout ça, à contrôler les effectifs, à contrôler un peu les personnes.
Oui. À faire le suivi avec, les personnes qui font le job.
OK.
C'est moi qui acquis les étapes, les démarches pour chaque projet, enregistrer ça, puis trouver la personne qui va faire le job et faire un suivi pour chaque, un line item pour faire ça à l'heure, le temps, sur la date qui existe et... C'est ça le projet, jusqu'au commencement, jusqu'au fin, trouver les finances pour ça, tout ça.
Bon, mais c'est quand même une responsabilité de haut niveau. Natalia, donc, et sécuriser les employeurs, les employeurs qui nous écoutent, Monsieur Bergeron faisait ça, tout ça sans qu'on se rende compte qu'il était en situation d'handicap, si je comprends bien.
Exactement. James était intégré comme n'importe quel autre employé, un membre choyé de l'équipe. Il montrait beaucoup de choses aux gens de l'équipe aussi. Il n'y a eu aucune difficulté. Gérant de projet mieux que d'autres qui ont leurs yeux, souvent. Très bien intégré et moi, je vous dirais, il n'y a pas de différence entre vous et moi. Comme j'ai mentionné plus tôt, c'est vraiment nous qui imposons les limites à des gens non-voyants. Ils n'en ont pas de limites. Ils vont tout apprendre. Il s'agit d'être bien confortable dans leur environnement, d'avoir les bons outils. Puis...
Puis tout se passe bien.
Tout se passe bien.
Tout décolle.
Tout décolle.
Écoutez, je reviendrai vers Sarah Rouleau, qui est à l'organisme INCA, qui lance cette campagne de sensibilisation. Évidemment, c'est une histoire heureuse là, qu'on entend.
Oui.
James, Natalia... supérieurs et ouais. employés.
C'est notre but qu'il y ait d'autres employeurs comme Natalia ouais. qui osent engager, embaucher une personne qui vit ouais. avec une perte de vision puis qui constate qu'effectivement, c'est comme travailler avec n'importe qui. C'est ça qu'on vise, dans le fond, avec cette campagne-là ouais. parce que des fins heureuses comme ça, il pourrait en avoir plein s'il y a un minimum d'ouverture d'esprit pour lancer pour employer quelqu'un. Là.
Donc, j'aime ça que vous le lanciez, ouverture d'esprit.
Oui.
Je vais me tourner vers Marilyn.
Oui.
Marilyn, qui était une si nécessaire infirmière. Nous, qui travaillons toujours avec des personnes en situation de handicap, qui voyons la santé, on sait à quel point les infirmières sont importantes. Est-ce que vous pourriez nous raconter en quelques mots, parce qu'on l'a vu circuler là, dans votre campagne, mais est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots qu'est-ce qui s'est passé au travail pour vous?
Bien, moi, pour faire une histoire courte, j'étais plutôt infirmière auxiliaire au niveau du CLSC Handicap à Montréal.
Oui.
Donc, j'étais en soins à domicile. Moi, j'avais besoin de ma voiture, évidemment, pour travailler. Et bon, là, en ayant le diagnostic, j'ai perdu le permis de conduire un mois plus tard. Et donc, je ne pouvais plus faire le travail que je faisais auparavant. Par contre, j'ai pensé que j'allais pouvoir me faire relocaliser ailleurs.
Bien, normalement.
Ce qui n'a pas été le cas, malheureusement. Ma supérieure immédiate à moi voulait me faire une route à pied,
okay.
que je puisse continuer de pratiquer, de faire partie de l'équipe.
Ouais.
Parce que, bon, je pense être une bonne employée, parce que j'ai jamais eu de commentaires négatifs, peu importe où j'ai travaillé pendant les 9 ans où j'ai été infirmière auxiliaire. Donc, pour moi, c'est... Je suis convaincue aussi que ce n'était pas ça le problème, parce que j'étais toujours engagée pour mes compétences et mes ouais. qualités. Mais malheureusement, ce n'est pas elle qui décidait de la suite. C'était
donc,
les ressources humaines.
C'est les ressources humaines du CIUS du Nord,
oui.
c'est ce que je comprends bien, qui ont offert aucune alternative, qui vous ont pas proposé des choses?
Bien, moi, j'ai eu une solution qui a été apportée aussi en collaboration avec une dame de l'Institut Louis Braille et Nazareth.
Oui,
qui m'a suivi.
Qui est souvent une référence, hein, d'ailleurs, pour l'adaptation en milieu de travail ou de manière générale, des conseils pour toute personne qui perd la vue. Là.
Effectivement, elles sont là pour nous aider et adapter justement notre milieu de travail.
Voilà.
Donc, elle s'est présentée avec moi à certaines rencontres. On en a eu 2 ou 3 à mon souvenir. Et puis, elle a dit que je pouvais continuer à pratiquer, seulement j'aurais besoin d'un local.
Oui.
Parce que c'est sûr que pour moi, les déplacements sont difficiles.
Ouais.
Donc, les hôpitaux, on oubliait ça.
Ouais.
Mais en même temps, il y a ce qu'on appelle les soins courants au CLSC, qui sont exactement la même chose que les soins à domicile, mais c'est les patients qui se déplacent. Donc, ceux qui sont capables de recevoir les soins et se déplacer viennent au CLSC.
Et donc, sur tout le territoire, parce que là, on cherchait à vous localiser seulement dans le Nord, c'est ça?
Oui.
Mais est-ce qu'on aurait pu essayer de vous... amener un autre CIUS sur l'île de Montréal, est-ce que vous savez?
Non, mais quand on est employé d'un CIUS, on reste dans le CIUS
ah,
au
ouais.
complet.
Okay.
Il faut dire qu'il y a quand même plusieurs places où
ouais.
elle aurait pu travailler.
Ouais.
Tu sais, le CIUS, c'est grand.
C'est grand, mais c'est immense.
C'est grand. Oui.
oui, parce qu'il faut le dire, avec les dernières réorganisations, les territoires se sont étendus. Alors, vous
oui.
aviez, de manière inespérée, plus de CLSC, de points de service où vous pourriez travailler.
Oui.
Bon, je me retourne vers INCA. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire dans cette situation-là?
Bien, en fait, comment je pourrais dire? C'est comme on l'a dit tantôt, les adaptations sont simples.
Mm-hmm.
Des fois, ça va être soit du matériel technologique, comme on a parlé de la synthèse vocale et tout. Puis souvent, c'est le centre de réadaptation qui, justement, va s'assurer d'aménager l'espace de travail ou dire ce qu'on pourrait faire pour continuer de travailler, comme ça a été le cas avec Marilyn. Et ensuite, on est chanceux au Québec parce que la Régie d'assurance maladie du Québec va payer la majorité de l'équipement.
Donc ensemble, il n'y a pas de coût réel pour l'employeur?
Pas vraiment. En tout cas, c'est pas un gros investissement parce que, justement, au Québec, avec la RAMQ, on est vraiment, vraiment, vraiment choyé.
Mmh.
Et là, ben, ça aurait été d'écouter les conseils du centre de réadaptation, de travailler en collaboration plutôt que de se fermer. Dans le cas de Marilyn, je pense qu'il y a vraiment eu une fermeture, puis elle devenait plus comme une béquille, puis on... c'était trop compliqué, tu sais.
Donc, c'est ça l'argument. Si je comprends bien, les employeurs pensent que ça va être trop compliqué.
Oui, puis pourtant, ben ils pensent que ça va être compliqué, que ça va être cher, alors que c'est même pas eux qui ont à faire les adaptations. Tu sais, il y a vraiment les centres de réadaptation qui y vont puis qui vont le faire. Puis souvent, comme je vous ai dit, c'est pas un gros investissement. Fait que c'est un, je crois, des gros obstacles que les employeurs voient. Ils se disent « Ah, mon Dieu, ça fait super compliqué. » Puis ça ne l'est pas. Donc, c'est pour ça qu'on trouve ça important de le dire puis de le rappeler.
Alors, je pense qu'il devrait avoir des visites dans les grandes entreprises où il y a plusieurs employés, qu'il y a toujours de la demande d'emploi de ces grandes entreprises-là, d'aller les visiter puis de leur parler puis de leur dire « C'est pas compliqué. »
Ça aiderait, hein?
Je pense que oui. Mm-hmm. C'est les campagnes de sensibilisation, ça l'aide beaucoup, mais je pense que les gens n'écoutent pas. S'ils n'écoutent pas, il faut vraiment se rendre sur place, envoyer des pamphlets, qu'ils voient puis qu'ils tiennent quelque chose dans leurs mains qui est concret, qui dit, ça ne coûtera pas cher, il n'y a pas de changement.
On va essayer d'aller les rencontrer le plus possible.
Voilà, ben c'est presque le mot de la fin. Pour plus d'informations sur votre campagne nationale sur l'employabilité des personnes vivant avec une perte de vision, on se rend au cnib.ca/fr. C'est bien
oui, sinon INCA.ca.
INCA.ca.
/ employabilité pour être vraiment là, sur la campagne. Il y a des conseils pour les employés autant que les employeurs.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Sarah Rouleau, James Bergeron, Natalia Di Battista, Marilyn Gélina, merci.
Merci.
Merci à vous.
Ne manquez pas Accès libre le mardi à midi et à 17h. Voilà, c'était le National de Canal M et Clotilde Sey au micro qui remercie toute l'équipe d'avoir mis la main à la pâte pour vous proposer cette émission hebdomadaire. Bonne fin de semaine.